31, ses cruautés. Il avait coutume de se plaindre de ce que son règne était marqué par aucune grande calamité, tandis que celui d'Auguste l'avait été par la défaite de Varus, et celui de Tibère par la chute de l'amphithéâtre de Fidène. Il ajoutait que la prospérité publique menaçait le sien d'oubli, et de temps en temps il souhaitait le massacre de ses armées, la famine, la peste, les incendies et les tremblements de terre. 32. Ses cruautés. La même cruauté, qui accompagnait ses paroles et ses actions, ne le quittait pas dans ses délassements, dans ses jeux et dans ses festins. Souvent, pendant qu'il dînait ou faisait une orgie, on appliquait la question sous ses yeux. Un soldat, habile à décapiter, coupait indifféremment toutes les têtes des prisonniers. À la dédicace du pont qu'il imagina de construire à Pouzoul, comme nous l'avons dit, il appela près de lui une foule de gens qui étaient sur le rivage. Tout à coup, il les jeta tous dans la mer. Quelques-uns saisissaient les gouvernails des navires, mais il les faisait submerger à coups de rames et d'aviron. À Rome, dans un repas public, un esclave avait détaché d'un lit une lame d'argent. Il le livra sur le champ au bourreau, ordonna qu'on lui coupât les mains, qu'on les suspendît à son cou, et qu'on le promena devant tous les convives, précédé d'un écriteau qui indiquait la cause de son châtiment. Un gladiateur, qui s'exerçait avec lui à la baguette, s'étant laissé tomber volontairement, Caïus le perça d'un poignard et courut, la palme à la main, comme les vainqueurs. Au moment où l'on allait faire un sacrifice, il prit l'habillement de ceux qui égorgent les victimes. Ayant levé sa massue, il immola le sacrificateur. Dans un splendide festin, il se mit tout à coup à éclater de rire. Les consuls, assis à ses côtés, lui demandèrent avec douceur pourquoi il riait. « C'est que je songe, disait-il, que d'un signe de tête, je puis vous faire égorger tous deux. » 33. Ses cruautés. Voici quelques-unes de ses plaisanteries. Un jour, étant devant une statue de Jupiter, il demanda à la cœur tragique Apelle lequel des deux lui paraissait le plus grand. Comme l'acteur hésitait à répondre, il le fit battre de verges et ne cessa de louer sa voix suppliante qu'il trouvait extrêmement douce, jusque dans ses gémissements. Toutes les fois qu'il baisait le cou de sa femme ou de sa maîtresse, il ajoutait « Cette belle tête tombera quand je voudrais. » Souvent même, il disait qu'il ferait donner la question à sa chère Césonia, pour savoir d'elle pourquoi il l'aimait tant. 34. Ses cruautés. Sa méchanceté envieuse et son orgueil cruel s'attaquaient pour ainsi dire aux hommes de tous les siècles. Il abattit et dispersa les statues des personnages illustres que, du Capitole, où elles étaient à l'étroit, Auguste avait transporté au champ de Mars. Et dans la suite, lorsqu'on voulut les rétablir, on ne put en retrouver les inscriptions. Il défendit qu'à l'avenir, on érigea, en quelque lieu que ce fût, de statue à personne, ou qu'on exposa son image, sans avoir demandé et obtenu son consentement. Il conçut aussi la pensée d'anéantir les poèmes d'Homère. « Pourquoi, disait-il, n'userais-je point du même droit que Platon, qui le bannit de sa République ?» Peu s'en fallut qu'il n'enleva de toutes les bibliothèques les écrits et les portraits de Virgile et de Tite-Live. Il trouvait l'un son génie et son science, et l'autre un historien verbeux, inexact. Il disait souvent qu'il abolirait l'usage de recourir à la science des jurys consultes, et jurait qu'il ferait en sorte qu'il n'y eût plus d'autre arbitre que lui. 35. Ses cruautés. Il ôta aux familles les plus illustres les décorations de leurs ancêtres, à Torquatus le collier, à Cincinnatus la chevelure, à Cnaeus Pompée, qui était de cette race antique, le surnom de Grand. Ptolémée dont j'ai parlé, ce prince qu'il avait fait venir de ses états et qu'il avait honorablement reçu, tomba sous ses coups, uniquement parce qu'en entrant dans l'amphithéâtre où Caïus donnait des jeux, il avait attiré les regards de l'assemblée par l'éclat de son manteau de pourpre. Rencontrait-il des gens dont une longue chevelure relevait la beauté? Il leur faisait raser le derrière de la tête. Aiesus Proculus, fils d'un primilipère, était pour sa figure et sa taille remarquable surnommé l'amour colosse. Sur l'ordre de l'empereur, il fut tout à coup enlevé des jeux publics et entraîné dans l'arène où il eut à combattre d'abord un gladiateur thrace, puis un adversaire armé de toutes pièces. Proculus fut deux fois vainqueur, mais Caïus le fit aussitôt garrotter et promener de quartier en quartier, tout couvert de haillons, pour le montrer aux femmes et le livrer ensuite au bourreau. Enfin, il n'y eut personne, quelque infime et misérable qu'il fût, à qui il ne chercha à nuire. Il suscita un concurrent plus robuste au grand prêtre de Diane, qui était en possession du sacerdoce depuis plusieurs années. Un jour de spectacle, Porgius, gladiateur de chars, ayant affranchi publiquement un de ses esclaves, après avoir vaillamment combattu, reçut du peuple de grands applaudissements. Caius sortit alors si brusquement de l'assemblée qu'en marchant sur un pan de sa toge, il tomba du haut des degrés. Dans son indignation, il s'écria que le peuple souverain accordait à un gladiateur qui n'avait rien fait que de très commun plus d'honneur qu'au César déifié et à l'empereur en personne. 36. Ses débauches. Il n'épargna ni sa pudeur ni celle d'autrui. On dit que, passionné par Marcus Lepidus, pour Mnester le pantomime et quelques otages, il entretint avec eux un commerce infâme. Valerius Catulus, jeune homme d'une famille consulaire, lui reprocha hautement d'avoir abusé de son âge jusqu'à lui briser les reins. Sans parler de ses incestes avec ses sœurs et de son amour connu pour la courtisane Pyralis, il ne respecta aucune des femmes les plus illustres. Souvent, il les invitait à souper avec leurs maris, les faisait passer devant lui et les soumettait à un examen attentif et lent, comme s'il voulût les acheter. Il alla même jusqu'à leur relever le menton avec la main, si la pudeur leur faisait baisser la tête. Puis, prenant à part celle de son choix, il sortait de la salle à manger autant de fois qu'il lui plaisait, et rentrant quelque temps après avec les marques toutes récentes de la débauche. Il louait ou critiquait ouvertement ce que sa personne et ses rapports avec elle avaient d'agréable ou de défectueux. Il répudia quelques femmes au nom de leur mari absent et fit insérer ses divorces dans les registres publics. 37. Ses prodigalités. Il surpassa en prodigalité tout ce qu'on avait vu jusqu'à lui. Inventeur de nouveaux bains, ainsi que de repas et de mets extraordinaires, il se faisait parfumer d'essences chaudes et froides, avalait les perles les plus précieuses après les avoir dissoutes dans le vinaigre, et servait à ses convives des pains et des viandes en or. Il avait souvent à la bouche cet adage « Il faut être économe ou vivre en César ». Pendant plusieurs jours, du haut de la basilique Julia, il jeta au peuple une somme considérable de monnaie. Il fabriqua des galères liburniennes à 10 rangs de rames. Les poupes étaient garnies de pierreries et les voiles enrichies de diverses couleurs. On y voyait des bains, des galeries et des salles à manger d'une large dimension, des vignes et des arbres fruitiers de toute espèce. C'était sur ces navires qu'il parcourait les côtes de compagnie, assis à table au milieu des danses et du son des instruments. Dans la construction de ses palais et de ses villas, il ne tenait pas compte des règles de l'art et ne souhaitait rien tant que d'exécuter ce qui paraissait impraticable. En conséquence, il jetait des digues dans une mer orageuse et profonde, taillait les rochers les plus durs, élevait des plaines à la hauteur des collines et abaissait des montagnes au niveau du sol avec une incroyable célérité, car le moindre retard était puni de mort. En un mot, il épuisa en moins d'un an tous les trésors de Tibère qui montaient à 2,7 milliards de sesterces. 38. Ses exactions. Quand il se vit dans la disette et la négligence, il eut recours aux rapines et imagina un nouveau genre de chicane d'enchères et d'impôts. Il contesta le droit de cité aux descendants de ceux qu'il avait obtenus pour eux et leur postérité, à moins qu'ils n'en fussent les fils, parce que le mot « postérie » ne s'étendait pas au-delà de la première génération. Il annulait, comme vieux et suranné, les titres émanés de Jules César et d'Auguste. Ceux dont la fortune s'était accrue de manière quelconque étaient accusés d'avoir faussement indiqué le sens. Il cassa, comme ingrat, les testaments des centurions primillipères qui, depuis le commencement du règne de Tibère, n'avaient institué héritier ni ce prince ni lui-même. Il suffisait, pour qu'il rescindât ceux des autres citoyens, que quelqu'un assurât qu'ils avaient eu dessein d'appeler César à leur succession. L'alarme qu'il répandit fit que des inconnus l'inscrivirent publiquement comme héritier au nombre de leurs amis et des parents au nombre de leurs enfants. Alors il les traita de mauvais plaisants qui s'obstinaient à vivre encore après leur déclaration. Et il y eut beaucoup auxquels il envoya des friandises empoisonnées. Il ne jugeait les causes qu'après avoir fixé le prix du jugement, et il levait l'audience quand il l'avait reçue. Impatient au dernier point, un jour il condamna par un même arrêt plus de 40 accusés poursuivis pour divers crimes, et au réveil de Césonia, Il se vanta du grand travail qu'il avait fait pendant sa méridienne. Il soumit et fit vendre à une enchère qu'il avait annoncée tout ce qui lui restait de l'appareil des spectacles, fixant en lui-même les prix et poussant tellement les mises que quelques citoyens, forcés d'acheter un taux immense et se voyant dépouillés de leurs biens, s'ouvrirent les veines. On sait qu'Aponius Saturnius, s'étant endormi sur un banc, Caius avertit le crieur de ne pas oublier cet ancien prêteur, qui, par ses fréquents mouvements de tête, paraissait faire des signes affirmatifs. On ne finit l'enchère que lorsque 13 gladiateurs lui eurent été adjugés à son insu, et pour 9 millions de sesterces. 39. Ses exactions. Lorsque Caius eut vendu dans la Gaule, pour des prix énormes, les bijoux, les meubles, les esclaves et les affranchis des condamnés, séduit par l'appât du gain, il fit venir de Rome tout le mobilier de la vieille cour. Il s'empara pour l'y conduire de voitures de louage et de chevaux de meunier, de sorte que le pain manqua souvent à Rome, et que la plupart des plaideurs encoururent la déchéance pour n'avoir pu se trouver à l'assignation. Il n'y eut point de fraude et d'artifice qu'il n'employa pour se défaire de ce mobilier. Tantôt il reprochait à ses concitoyens leur avarice et leur demandait s'ils n'avaient pas honte d'être plus riches que lui. Tantôt il feignait de se repentir d'avoir prodigué à des particuliers des meubles de prince. Il apprit un jour qu'un riche provincial avait donné 200 sesterces aux appariteurs pour qu'il admisse frauduleusement à un de ses repas. L'empereur ne fut point fâché que l'on mit ainsi au prix l'honneur de manger à sa table. Le lendemain, voyant cet homme à l'enchère, il lui fit adjuger un objet frivole pour 200 000 sesterces et lui envoya dire qu'il souperait avec César, d'après son invitation personnelle. 40. Il lève de nouveaux impôts. Il leva des impôts nouveaux et inouïs jusqu'alors, d'abord par des fermiers publics, puis, comme les bénéfices devenaient immenses, par des centurions et des tribuns prétoriens. Il n'y eut aucune chose et aucune personne qui ne fût taxée. On mit un droit fixe sur tous les comestibles qui se vendaient à Rome. On préleva sur les procès les jugements, en quelque lieu qu'ils fussent rendus, le 40e de la somme en litige. Et il y eut une peine pour ceux qui seraient convaincus d'avoir voulu transiger ou renoncer à l'affaire. Les portefaix furent obligés de donner le 8e de leurs gains journaliers, et les courtisanes ce qu'elles gagnaient dans chaque visite. La loi ne se borna pas là. Celles qui avaient exercé le métier d'entremetteuse ou de prostituée furent soumises à ce droit. Les mariages même n'en furent pas exempts.